Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les univers sonores de Mobilon, la radio mobile de chez vous vers le monde. Vous connaissez certainement les portraits de pros de la graine, la monnaie locale de l'Hérault. Mais aujourd'hui, nous vous proposons un nouvel épisode d'Éclat de projet, une série de récits et de captures sonores qui vous plonge dans les initiatives concrètes, citoyennes et inspirantes des membres du réseau de la graine. Pour ce numéro, direction Castries, au pied du mur du château, dans un lieu un peu particulier, un verger partagé, né il y a 10 ans, sur un terrain municipal et cultivé selon un principe simple et naturel, sans arrosage, sans produits chimiques, sans mécanisation. Dans cet épisode, nous avons rendez-vous avec José, l'un des acteurs du verger. Autour d'une idée aussi poétique que pratique, la consigne de noyaux. Le principe ? Au lieu de jeter les noyaux après avoir mangé un fruit, on les glisse dans un sachet en papier et on les dépose dans un point de collecte. Ensuite, associations et porteurs de projets viennent récupérer ces noyaux pour les semer directement en terre et faire naître de nouveaux vergers, des haies nourricières, des friches régénérées. Au fil de la conversation, on parle aussi de sols qui se régénèrent, d'eau stockée grâce à la matière organique et même d'un lavoir ancestral de 1670 transformé en mare. Alors prêt à découvrir cette consigne qui remet la vie en circulation ? Alors, on lance les ondes. Bonjour José.
Salut Paul.
Eh bien écoute, déjà merci de nous recevoir. L'idée aujourd'hui, c'est d'échanger sur un nouveau projet que l'on pourrait appeler consigne de noyaux. C'est joli.
Oui.
Alors on va expliquer, hein. Ça, c'est un petit teasing là, consigne. Vous imaginez un peu ceux qui écoutent, consigne de noyaux, qu'est-ce que ça peut être ? Alors le petit contexte, José, c'était il y a quelques jours, on a fait une conférence dans le cadre du festival Manger comme on sème. Et lors de cette conférence, tu as rencontré des gens.
Voilà, donc cette conférence était très intéressante. C'est parmi les gens très intéressants qu'on a pu, avec qui on a pu échanger, des directeurs de Biocoop.
D'accord.
Et donc tout de suite, je leur ai exposé notre intérêt pour les noyaux et les pépins de fruits que nous, le verger partagé, semons depuis des années et qui nous donne déjà un début de forêt verger, forêt nutritive.
D'accord. Oui. Est-ce que tu peux juste nous rappeler l'histoire du verger, le verger partagé ?
Alors ce verger, il a bientôt 10 ans. Et il a été créé par une association qui s'appelait l'Atelier Citoyen, qui était à Castries, qui s'occupait donc d'aide à des agriculteurs, de compost, beaucoup de choses qui touchaient à la nature. Et un jour, Frédéric nous dit, je suis dans une entreprise qui travaille dans le papier, mon patron veut planter 100 d'arbres, est-ce qu'on pourrait leur proposer quelque chose ? Et tout de suite, on a été à la mairie en disant ben, on a 100 arbres à notre disposition, où est-ce qu'on peut les planter ? Et la première adjointe, tout de suite, a très bien réagi, a dit ben, oui, ben, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Bon. Et elle nous a proposé un terrain qui fait un petit peu moins d'un hectare, tout près du village, le long du mur du château. Et donc là, on s'est engagé à faire un verger pluvial, c'est-à-dire un verger qui n'est pas arrosé. Hein, ce qui est bien rare dans la région, et sans aucun produit, sans mécanisation. Donc, tout de suite, on a semé les 5 premiers arbres le 8 juin.
D'accord.
Et ensuite, on a semé le reste des arbres au mois de décembre et février, qui sont les bonnes périodes pour planter. Et là, on a planté. Alors, entre-temps, Notre ami a dit, bah oui, j'ai un contretemps, la société finalement a souhaité planter ailleurs. Et j'ai bien dit, bah, ça fait rien, on a le terrain et on a fait savoir que tous ceux qui arrivaient avec un arbre étaient bienvenus et on a eu 80 arbres avec leur.
Génial.
Chacun a porté son arbre. La mairie a fait, avec une pelleteuse, a fait les trous dans le verger et on a planté donc. 80 arbres avec beaucoup d'espèces différentes. Enfin, c'était un peu chacun apportait ce qu'il voulait, c'était le hasard. Et rapidement, on s'est rendu compte que l'idée était géniale de faire un verger pluvial, mais qu'il ne pleut pas tant que ça. Et donc, les deux premières années, on est obligé d'arroser.
D'accord.
On a vu que même en arrosant, les arbres souffraient. Enfin, il y en a eu des pics de chaleur, des sécheresses.
Ouais.
Et on s'est dit, au bout de 2 ans, il faut peut-être trouver d'autres solutions. Et en particulier, le semis direct. Plutôt que de planter des arbres, on sème des noyaux. C'est ce qu'on a commencé à faire. Et on a vu très rapidement que ça marchait pas mal. Et qu'au bout de 3 ou 4 ans, certains noyaux avaient rattrapé les arbres de pépinière qui étaient greffés.
Excellent.
Voilà. Donc on a continué comme ça, chaque année on sème. Et là maintenant on a à peu près 1000 arbres sur cette parcelle, dont 60% sont des arbres fruitiers.
D'accord.
Et les autres sont des arbres qu'on a laissés arriver par les oiseaux, par la... qu'on appelle la régénération naturelle.
D'accord.
Il faut expliquer que quand on abandonne une terre, elle va vers la forêt. C'est la nature a une stratégie qui est le plus court chemin pour aller à la forêt. Donc on s'est dit, on se met dans cette dynamique.
D'accord.
Et cette dynamique a d'ailleurs un nom au niveau agronomique, on appelle ça la régénération naturelle assistée.
D'accord.
Et notre assistance, donc, c'est de semer des petits arbres fruitiers et la nature les accepte ou pas. Et voilà, et au bout de 5 ans, on a eu les premiers fruits des arbres semés. Et ça marche si bien que du coup, on a été semés chez des agriculteurs qui ont des friches.
Ouais. Donc toutes friches. Toutes friches susceptibles de recevoir.
Voilà, les friches agricoles.
D'accord. Hein,
et c'est extraordinaire parce qu'on voit comment on a pu suivre comment la nature s'organise pour décompacter le sol. Là, ce sont d'anciennes vignes, d'anciennes monocultures. Ouais. Des sols sont généralement en mauvais état. Il y a beaucoup de cuivre. Et on voit arriver donc des herbes aussi sympathiques que le chien d'an, par exemple, les chardons.
Ouais.
Qui font un boulot que tout le monde déteste et qui font un boulot essentiel, qui pénètre, qui ont des racines, qui décompactent, qui pénètrent en profondeur. Et à ces espèces-là, on voit arriver des ronces, on voit arriver des tas de... Les herbes se succèdent. Petit à petit, on arrive d'un certain coin maintenant à avoir des plantes de sous-bois,
hein,
qui
ne
sont plus des graminées, qui sont des lierres, des pervenches. Des herbes qui poussent à l'ombre et qui ont aussi un avantage et qui sont aussi une adaptation au climat de la nature, qui sont des plantes qui ont une photosynthèse à très basse luminosité et la photosynthèse produit du froid et donc ça permet d'obtenir ce qu'on appelle la rosée, la condensation.
D'accord.
Hein, donc en pleine... On peut faire 25 degrés à l'extérieur et à l'ombre, on voit des feuilles qui se mettent à perler avec de l'eau. On a la production d'eau.
D'accord.
En pleine canicule, on produit de l'eau.
Et c'est à ce moment-là que vous semez ou vous avez déjà semé?
Alors les semis se font plutôt à l'automne.
D'accord.
Pour la bonne raison que tous les fruitiers qu'on a ici, en zone tempérée, on a ce qu'on appelle une dormance. La nature fait en sorte que pour que le noyau ne germe pas à l'automne, par exemple, ce qui fait qu'il gèlerait en hiver, elle fait en sorte qu'il ne germe qu'au printemps.
D'accord.
Donc il faut un certain nombre de jours de froid. Alors on peut les mettre dans un frigo, ça s'appelle la stratification, et les mettre avec un petit germe dans le sol vers le printemps. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le sème et c'est le froid de l'hiver qui, jusqu'à maintenant, est suffisant pour lever la dormance.
D'accord.
Il y a une exception, c'est le cerisier. Le cerisier a besoin de beaucoup plus de froid. Et là, on n'a plus assez de journées de froid. Donc le cerisier devient difficile à semer.
Et je pense qu'il y a souvent des personnes qui se posent des questions, pourquoi on a de moins en moins de cerises, tu sais, sur les marchés.
Oui,
c'est vrai qu'on en voit de moins en moins sur nos marchés.
Oui, oui.
On voit, c'est pas un fruit qu'on voit beaucoup. On voit de l'abricot.
Alors oui, il y a plusieurs raisons. C'est que bon, c'est un sacré boulot à ramasser les cerises. Mais le cerisier, il faut aussi du froid, enfin comme pour les pommiers. Quelquefois, le froid n'est pas suffisant en hiver pour que la floraison se passe bien. C'est possible. Enfin, le cerisier est plus difficile.
Et quand vous semez, donc vous semez tous les noyaux que vous avez.
Oui.
Peu importe. Vous les mettez et c'est la nature qui décide.
C'est la nature qui choisit.
D'accord. Hein,
c'est-à-dire qu'on peut mettre des milliers de graines et il peut y en avoir une centaine qui sort.
C'est... D'accord.
Voilà, parce qu'il peut y avoir, donc, elles peuvent être mangées par les souris qui se baladent, des mulots.
Oui.
Il y a des escargots
tout le processus.
Tout le processus qui fait qu'il y a une sélection.
D'accord.
Donc
là, on revient à l'idée de consigne de noyaux. Je pense que les gens ils commencent à dire « Ah, consigne de noyaux ». Donc, je mange un fruit, j'ai un noyau. Donc aujourd'hui, je fais le tri. Je le mets dans mon compost ou dans la poubelle. Et toi, tu dis «
Surtout, gardez-le. Gardez-le et semez-le. Ou si vous n'avez pas d'endroit où le mettre. Allez le mettre à la Biocoop
On y arrive. Donc l'idée c'est de proposer
à la consigne
noyaux.
Et là, les associations, enfin tous ceux qui veulent semer pourront venir se servir et donner une vie à ces semences.
On s'interdit rien, c'est-à-dire que tout noyau, est-ce qu'un noyau de cerise, je dois le garder ou je dis non, le noyau de cerise.
Non, tu le gardes et tu le sèmes quand même. Parce que là-dessus, chaque noyau est unique, comme chaque être humain est unique, tu vois.
D'accord. Hein,
alors que nos arbres fruitiers, généralement, ils sont greffés, c'est-à-dire qu'ils sont donc clonés.
Eh oui.
Alors que là, on a une diversité extraordinaire et dans cette diversité, tu peux trouver des phénomènes qui font que. Il a besoin de moins de froid.
D'accord.
Voilà. Alors, justement, pas mal de gens disent, mais quand on sème, on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir comme fruit. Et ils ont raison.
D'accord.
Parce que chaque arbre est unique. Donc, il y en a qui vont donner peut-être des fruits, ou il y a qui donneront très peu de fruits, ou qui donneront des fruits pas particulièrement bons. Mais il peut y avoir aussi d'autres fruits qui donnent, qui sont parfaitement originaux. Voilà, et donc dans notre verger, on a des membres qui ont appris à greffer, ils sont des passionnés du greffage. Et on essaie de dire, mais calmez-vous, greffons les espèces sauvages, comme il y a des poiriers sauvages qui viennent de la garrigue, qui là se donnent des petites poires qui ne sont pas comestibles pratiquement, enfin qui ne sont pas bonnes. Mais ceux-là sont très bien adaptés à la sécheresse, donc on greffe.
Et
par exemple, il y a des plantes comme le piracanta que les gens mettent dans leur haie, là, qui se multiplient un peu partout, ce qui est une petite plante épineuse qui ne donne pas de fruits particulièrement intéressants. Mais ça, on a découvert qu'on pouvait greffer des pommes, des poires, des nèfles sur ce piracanta.
Alors, donc, on fera une émission.
Voilà.
Ce que je te propose,
sur le greffage. Le greffage des arbres sauvages, c'est très intéressant.
Ça, c'est intéressant. Alors,
mais dans le cadre de notre verger, on est intéressé par la biodiversité, surtout.
D'accord.
Hein, donc, on a parmi les espèces qu'on a plantées, il y a 32 espèces fruitières différentes.
D'accord.
Et 16 espèces, on appelle ça pionnières, comme le frêne, les acacias, les ormes qui sont arrivés à eux par les oiseaux.
Ah oui.
Voilà, alors ceux-là, on les garde.
Donc il y aura une troisième voie. Il y a les arbres, comme tu as dit, il y a ceux qui sont amenés par les oiseaux et il y aura ceux qui sont amenés par la collecte, la consigne de noyaux.
Voilà.
Il y a ceux-là.
Voilà.
Et donc l'idée, ça sera, moi je mange mon fruit, je le mets dans un. J'ai pas besoin d'une conservation particulière.
Non, tu laves ton noyau.
Je le lave. Hein,
tu le laves,
ouais.
Tu le laisses sécher à l'ombre si possible.
Okay.
Et puis quand il est sec, au bout de quelques jours,
okay.
Tu le mets dans un sachet en papier.
D'accord.
Hein, surtout pas en plastique. plastique, hein, le papier.
Ok, donc sachant
que c'est une plante vivante, elle respire, tu vois, oui, donc si tu le mets dans un papier, elle va, il y aura de la moisissure.
Donc là, on a le mode d'emploi, je mange mon fruit, je le nettoie, je le fais sécher un petit endroit, je le mets dans un sac papier,
voilà.
Je retourne faire mes courses dans un des biocopes, j'amène
mon sachet.
Voilà. Une fois que le biocop aura récupéré tous ses noyaux, aussi divers qu'ils sont et de n'importe où, hein, on imagine,
Ils peuvent être mélangés dans le sachet, c'est pas important.
C'est pas important, d'accord. Et donc après, des associations comme la vôtre, comme le verger. Alors, je crois que tu m'as dit qu'il y avait d'autres vergers qui apparaissaient en ce moment.
Oui, il y a d'autres vergers. Hein. Il y en a à Prades, il y en a un autre à Saint-Mathieu, et puis il y a plusieurs d'autres qui sont en voie de gestation.
Et tu disais aussi, moi je suis un particulier, je suis passionné. Je peux semer.
S'il y a un passionné, ce qu'on lui conseille, c'est de venir faire une visite au verger. Hein, tous les premiers samedis du mois, là, on travaille sur le verger. Donc, il vient, il rencontre, il observe. Et puis, s'il a envie de faire pareil,
c'est génial, ça.
Il trouve un terrain. Hein, il suffit quelquefois de demander à un agriculteur qui a une petite friche dont il ne fait rien.
Ouais.
Et de plus en plus d'agriculteurs ont compris qu'avoir un peu de biodiversité, c'est pas mal pour leur culture. Hein, ça peut être sous forme de haies ou de petites parcelles. Et là, donc, on va semer chez les agriculteurs.
Ok.
Ou bien ça peut être une mairie qui met à disposition un terrain. Il y a des terrains départementaux, il y a la SNCF qui a des terrains le long de ce chemin de fer, les DF aussi.
Oui, tout ça peut servir.
Voilà, il y a donc beaucoup de terrains vacants, en fait, pour ce genre de choses.
Et ce que tu disais, c'est que le fait qu'on fasse ça, on régénère la nature, on lui apporte une diversité, l'eau, on retient peut-être l'eau.
Et alors, tu parlais de l'eau, c'est essentiel pour l'eau. Enfin, parce que ce sol devient, au fur et à mesure qu'il s'améliore, chaque année, il s'enrichit en matière organique. Et chaque fois que tu augmentes de 1% ta matière organique, tu augmentes de 200 mètres cubes de stockage d'eau par hectare. Ouh. 200 mètres cubes, tu vois, c'est pas rien.
Ah non, c'est pas rien.
Mais l'eau d'eau se stocke dans ce sol, et petit à petit, elle descend et approvisionne la nappe lentement.
D'accord.
Donc, et on sait qu'on aura dans l'avenir des problèmes d'eau potable. Et là, c'est une bonne façon de produire de l'eau. Hein. Il y a l'exemple de Munich, par exemple, en Allemagne, qui a passé des accords avec les agriculteurs qui pratiquent ce genre d'agriculture, d'agroforesterie, pour l'eau, pour produire l'eau potable de la ville.
Excellent. Donc, faut vraiment se documenter là, parce que c'est vrai que ça change, c'est un changement de paradigme. On a l'impression que...
Ben oui, on restaure un écosystème et tout redevient normal. Hein. L'eau n'est plus un problème.
Exactement. Elle devient une ressource qui se crée elle-même.
Elle est disponible, qui se crée, qui s'entretient toute seule.
Donc là, juste pour... avant d'aller se promener. Donc, la campagne, c'est... consigne de noyaux.
Alors, il y a expression. La
consigne. Non, parce que c'est intéressant là, quand on a imaginé ça, c'est il y a la consigne du verre, tu sais.
Voilà.
Jusqu'à présent, on disait faut trier le verre. Hein. Mmh. On arrive, on jette nos bouteilles, etc. Et depuis quelque temps, la consigne est revenue.
Oui.
C'est une réalité dans l'Hérault, hein, puisque on a une industrie Hoc Consigne qui fait partie de ce réseau du réemploi, pas du tri.
Oui.
Et on s'aperçoit que ça fonctionne. Les gens ramènent les bouteilles.
Ben oui.
Les bouteilles, elles sont nettoyées, elles sont réutilisées.
Ben oui, c'est un produit noble, le verre.
Exactement.
C'est malheureux de le casser. Quoi.
Exactement. Et donc là, on fait la même chose avec les noyaux.
Voilà.
On dit, on lance la consigne de noyaux.
Donc, c'est encore plus fort, parce que le noyau, c'est la vie quand même.
Exact.
Hein, donc on soigne la vie.
Exact. Donc là, l'idée, c'est hyper simple pour tout le monde. On mange un fruit. On lave le noyau, on le pose, on le laisse sécher, on le met dans un sac papier et quand je retourne au biocop, je leur donne, ils le récupèrent, vous venez le chercher et vous faites le cycle.
Voilà.
Là, si ça, c'est pas du réemploi, là,
c'est
du réemploi naturel.
Chaque fois qu'on sème un arbre, c'est un événement. Quoi,
exactement. Donc ça, c'est génial. Alors aujourd'hui, les biocopes que tu as rencontrés sont les biocopes de Lunel et le biocop de Ducresse et de Jacou.
Voilà.
Mais bon, peut-être qu'il faudra qu'on en parle voilà, à d'autres biocopes.
J'en ai parlé par hasard, j'ai rencontré le directeur d'une biocop de Castres.
Ah.
Et qui était très, très intéressé.
Donc voilà, donc je pense que ça, c'est quelque chose d'assez facile à mettre en place.
Oui.
Et on peut tous y participer, en plus, oui, c'est citoyen, oui, etc. Bon, bah écoute, c'est génial.
C'est génial.
Là, on a fait la première partie, on a introduit. Alors, ce qui serait super, José, c'est qu'on fasse une balade.
Voilà.
Du verger.
Et tu me poses des questions.
Mais il faut que les gens s'imaginent ce que l'on va leur dire.
Oui.
Parce que là, ils ne voient pas.
Il faut décrire.
Il faut qu'on décrive un petit peu.
Hein?
Donc déjà là, si on fait, on est à Castries. On est le long du mur du château. Donc c'est assez facile à trouver. Hein.
On est assis sur le lavoir ancestral.
Alors, voilà, on est assis sur un lavoir ancestral. Donc on vous invite à venir le voir, mais tu m'as dit aussi que là, il y avait une expérimentation
voilà,
en ce moment.
C'est une, on l'a transformé, on lui a donné une deuxième vie pour en faire une mare. Donc on a apporté un petit peu de végétation et parmi les membres du verger, il y a une chercheuse qui a travaillé, qui a fait sa thèse sur les moustiques et donc qui dit bon, on peut gérer alors les moustiques. On ne peut pas les éliminer. Hein. Les moustiques, ils font partie de la chaîne alimentaire, ils font partie de l'écosystème, mais on peut arriver à réduire leur nombre de manière à ce que ce soit pas au niveau de la santé, ce ne soit pas un problème. Donc là, on a mis des poissons, il y a des larves de libellules.
L'eau, elle est stagnante.
L'eau est stagnante.
Hein. Déjà, c'est l'antithèse de ce qu'on dit, parce qu'on nous dit. Dès que vous avez de l'eau stagnante, vous allez plus pouvoir vivre à 250 mètres.
Voilà.
Donc là, elle est stagnante.
Et c'est vrai.
Et on est assis.
Et on est assis au bord. Et pour l'instant, alors, est-ce que tu as déjà eu un moustique depuis qu'on est là?
Peut-être que j'en ai un là. Regarde-le, celui-là. Ça, c'est un beau tigre.
Ouais,
et lui, il se dit, tiens.
C'est pas un tigre.
Ah, c'est pas un tigre, ça?
Non, non.
Regarde-le. Et l'ami.
Voilà, parce que, oui, alors ça, je vais le garder pour le montrer. Parce que tu vois, là, on a des petits flotteurs, là,
oui.
et qui sont justement censés indiquer. Parce que les tigres, ils pondent juste en bordure, là. Ah, alors ça peut être des barquettes de tigres. Mais ça, je ne peux pas le dire, là.
D'accord.
Je ne suis pas expert. Voilà, c'est pas impossible. Donc là, effectivement, je sais pas quand je. Oh, mais zut, il s'est envolé.
Il est parti. Bon. Il a eu raison. Donc là, on en a un, mais on est sur de l'eau stagnante. Il y a des poissons, c'est très joli, c'est vert. Vous voyez, il y a un peu de bois. Et puis,
des nénuphars, ça c'est un nénuphar.
Les nénuphars, ouais. Mais c'est vous qui les avez mis, les nénuphars
Oui, on a tout mis. Hein.
D'accord. Donc vous avez fait une installation. Avec des nuphars.
Voilà, il y a des plantes aquatiques qu'on a cherché. Il y a des joncs, des roseaux, des.
C'est joli. En tout cas, c'est joli. Mmh. Déjà, quand on le regarde, c'est joli. Donc, on est là au lavoir, à côté du château. Vous venez, côté château, il y a l'entrée principale. Voilà. Vous descendez un peu, vous tournez sur votre gauche.
Il y a un petit panneau là.
Et là, vous avez un petit panneau qui explique.
Que ce lavoir a été construit en 1670.
Donc là, on est au lavoir construit en 1670. Bon, ben voilà, maintenant, vous savez presque tout. Maintenant, il faut essayer. Ce qu'on peut dire aux gens, c'est...
Essayer.
Essayer. Tester.
Et on peut même semer dans un pot sur son balcon. Hein. C'est y en a qui le font et après, le planter ailleurs.
Non, on a fait le tour.
On est bien, là.
On est bien.
On est bien.
Notre éclat de projet à Castries touche à sa fin. Si l'idée de la consigne de noyaux vous parle, vous pouvez commencer maintenant et simplement. Gardez vos noyaux, séchez-les, déposez-les dans un point de collecte ou même tentez un semis dans un pot de votre balcon. Et si vous voulez voir le verger de vos propres yeux, l'équipe se retrouve le premier samedi de chaque mois pour travailler sur place. Une bonne porte d'entrée pour observer, apprendre et peut-être lancer, vous aussi, un coin de forêt nourricière près de chez vous. Merci encore à José pour son temps et ses explications. En attendant le prochain éclat de projet ou portrait de proue, n'hésitez pas à vous documenter sur le verger partagé et à venir y faire une petite balade avec votre famille. La musique était libre de droit et téléchargée de museopen.org et pixabay.com. Cette errance sonore est une création de Mobilonde réalisée en juin 2026.